Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons pour le 18e édito de Musique et moi, dont Raphaël.
Bonjour.
Dont Raphaël, qui va nous parler du chant grégorien et de la liturgie. Un petit rappel, nous avions précédemment traité, pour Musique et moi, numéro 12, le chant grégorien, et nous avions eu pour extrait l'Ubi Caritas et Amor, opus 10, numéro 1, de Durufo. Oui. Mais là, donc, dont Raphaël va nous expliquer, lui, son thème à lui, c'est-à-dire chant grégorien et liturgie. C'est à vous, Raphaël.
Très bien. Donc, alors, la première question, c'est quoi?
Alors, la première question, nous avons dit, qu'est-ce que le chant grégorien?
Qu'est-ce que le chant grégorien, tout simplement? Alors, je pense que le plus important, quand on parle de liturgie, c'est de retourner dans les textes qui expriment notre liturgie, et donc, en particulier, la constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, qui est la première constitution qui a été votée par les pères conciliaires, qui est donc le but, c'est de parler de la liturgie. Et donc, dans ce très beau texte, qu'on peut relire, dans ce très beau texte, il est dit « Le chant grégorien est le chant propre de la liturgie romaine ». Donc, c'est ça d'abord, le chant grégorien, c'est le chant propre de la liturgie romaine. Donc, ça veut dire que parmi tous les autres chants, parmi tous les autres styles de chants, il y en a un qui est le chant qui est vraiment particulier, qui doit être mis en avant plus que tous les autres dans la liturgie, c'est le chant grégorien. Donc le chant grégorien, de quoi on parle? On parle d'un chant latin, qui est chanté en latin et qui est très antique, puisque il vient grégorien, ça vient de Saint Grégoire le Grand, et donc Saint Grégoire le Grand, c'est, si je ne me trompe pas, le 6e siècle, quelque chose comme ça.
Très ancien.
Donc très ancien, et même en fait, il y avait sans doute, par exemple, nous qui chantons en grégorien chaque jour, on chante très régulièrement des hymnes de Saint Ambroise de Milan, et donc Saint Ambroise, c'est le 4e siècle. Et donc le chant grégorien, c'est un chant qui s'est développé pendant toute cette période, donc avec la première caractéristique, donc c'est un chant en latin, c'est un chant qui est à l'unisson, il n'y a pas de polyphonie en grégorien. Et c'est un chant qui est vraiment dont la caractéristique est de vouloir mettre en valeur le texte. C'est le texte qui, la musique est là pour mettre en valeur le texte. Voilà. Et donc on le voit très bien quand on écoute du grégorien, on peut vraiment méditer parce que comprendre pourquoi à certains moments on monte, pourquoi il y a des nuances, tout ça c'est par rapport au texte. Et le texte c'est la plupart du temps des extraits de la Bible. Voilà. Et donc, c'est mettre en valeur la parole de Dieu.
Et est-ce qu'il existait d'autres formes de chant dans l'Église avant son apparition?
Alors, c'est une très bonne question. Et donc, moi, je ne suis pas un grand, grand spécialiste de chant dans l'Antiquité, mais je pense que, quand même, le chant grégorien a apparu très vite, à mon avis. Et après, il faut sans doute qu'il faudrait regarder ce qui se passe aussi dans nos églises orientales, parce que dans les premières liturgies romaines, la liturgie s'est développée en particulier avec quand on a pu construire des églises, quand le christianisme est devenu la religion autorisée puis officielle dans l'Empire romain, donc c'est au 4e siècle. Et du coup, au début, il y a la liturgie qui est célébrée en grec et la liturgie qui est célébrée en latin. Et donc, il faut regarder un peu. Par exemple, chez nos frères orientaux, qu'on conservait aussi des manières de chanter très, très antiques. Et donc, c'est venu sans doute à peu près au même moment, je pense. Mais bon, faudrait regarder un peu dans le détail. Et je ne suis pas un grand, grand, grand spécialiste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chant grégorien, c'est quand même très profondément antique. Mais ce qui... là, on peut regarder avant, on peut regarder Jésus avec les apôtres. Il chantait les psaumes. Alors, bien sûr, il ne chantait pas en latin, il ne chantait pas en grégorien, mais donc il y avait des manières de chanter en hébreu. Voilà, les psaumes se sont toujours chantés. Le roi David, on le représente souvent avec un instrument de musique. Et donc, les psaumes étaient des prières chantées. Donc, avant le chant grégorien, on avait l'habitude déjà de chanter la parole de Dieu, les psaumes. Moi.
Pour vous, donc, Raphaël, à quoi correspond la beauté d'une liturgie?
Alors c'est vrai que c'est une très belle question. Alors, je pense que la beauté d'une liturgie, c'est réussir à nous permettre à nous, dans notre époque, à entrer dans le mystère de Dieu. Une liturgie, je crois que la beauté d'une liturgie, elle doit nous faire toucher quelque chose de la transcendance de Dieu, de Dieu qui est grand, qui est magnifique, qui nous dépasse. Et donc, en fait, la beauté d'une liturgie, paradoxalement, il me semble que dans une liturgie, on doit ne pas tout comprendre. Et c'est peut-être sans doute un défaut qu'on a pu avoir ce dernier moment, c'est de vouloir tout comprendre dans la liturgie, tout expliquer. Vous voyez, le fait qu'on ait tout passé en français, par exemple, qu'on ait voulu tout expliquer, eh ben, ça nous peut-être que ça nous empêche de comprendre aussi que, en fait, dans la liturgie, il y a quelque chose qui nous dépasse, parce que Dieu nous dépasse.
Le mystère.
Du mystère. La liturgie, elle est là pour nous faire rentrer dans le mystère de Dieu. Quand vous allez dans un monastère bénédictin, où les moines souvent chantent, où les moniales chantent en grégorien, il y a quelque chose, vous ne comprenez pas tout, mais vous êtes saisi par la beauté du mystère de Dieu, par une simplicité. C'est ça, la liturgie, c'est une simplicité, mais quelque chose qui nous fait sortir du siècle, un peu. Vous voyez, c'est pour ça que je pense que c'est très important que la musique qu'on chante à l'église ne soit pas complètement la musique du monde. À l'église, eh bien, on rentre dans une autre dimension, c'est la dimension de Dieu. On rentre dans le temps de Dieu.
Mais donc, tout le monde ne parlant pas latin, il est quand même utile qu'il y ait des chants en français.
Et bien sûr, bien sûr. Donc là, je dis pas que qu'il faudrait que tout soit en latin, mais peut-être que ça nous aiderait qu'il y en ait un peu. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce que dit le Concile Vatican II. Donc le Concile Vatican II, je rappelle, dit que le chant propre de la liturgie romaine, c'est le chant grégorien, et la langue de la liturgie, c'est le latin, mais que on pourra s'adapter en fonction des cultures dans lesquelles on est, etc. Je crois que ça anticipe un peu la question d'après.
Tout à fait, oui, vous avez parlé culture. Donc, pensez-vous que la liturgie doit revêtir une forme unique, ou bien doit-elle aussi tenir compte du pays et de la culture du lieu où elle est célébrée?
Ça, c'est une grande question aussi que sont posées souvent les théologiens, c'est la fameuse question de l'inculturation. Donc, comment on rentre en dialogue aussi avec les cultures dans lesquelles on est envoyé, parce que la catholicité de l'Église, c'est-à-dire que l'Église est universelle, donc est faite pour tous, et donc pour toutes les cultures. Et donc comment on peut entrer en dialogue, et même dans la liturgie, entrer en dialogue avec les cultures locales, enfin contemporaines. Et ça, en fait, ça s'est toujours fait. Par exemple, si on pense à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, donc au XVIIe siècle, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les chants populaires de l'époque, et il a mis des paroles chrétiennes dessus pour que les gens apprennent les paroles chrétiennes. Enfin, donc il ne s'agit pas, il ne faudrait pas se dire, le chant grégorien, c'est le chant propre de la liturgie romaine, donc on ne chante plus que ça. Voilà. Parce que sans doute qu'on serait trop en décalage par rapport à notre monde. C'est un équilibre entre ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que la liturgie est là pour nous faire rentrer dans le mystère de Dieu, et donc on ne peut pas tout comprendre. Et donc on doit avoir des chants qui nous rappellent qu'on ne peut pas tout comprendre. Et en même temps, Dieu parle aussi à notre sensibilité, et notre sensibilité, elle est parce que nous sommes des êtres incarnés, donc notre sensibilité vit dans une... on grandit dans une époque, et donc notre époque, c'est l'époque aussi de la musique moderne, etc. Et donc on peut pas avoir que des chants comme autrefois. On doit réussir à s'adapter.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand nous assistons à des messes africaines ou Madagascar, les chants sont effectivement beaucoup plus rythmés, sont complètement adaptés, je dirais, à la musicalité du pays. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Autre question, c'est celle de Michel. Pourquoi le Kyrie est-il dit trois fois, si je ne me trompe pas, ou trois et deux?
Expliquez. Alors déjà, le Kyrie, c'est très intéressant, c'est que c'est un reste, justement, de le Kyrie. Vous savez, Kyrie eleison, c'est du grec et non pas du latin. Et donc c'est un reste qui nous montre aussi l'unité de l'Église, du poumon oriental et du poumon occidental, comme dirait Jean-Paul II. Et donc, c'est un reste très antique de chanter Kyrie eleison, c'est quand même très beau, parce que ça nous rappelle que dans les origines du christianisme, il y avait la langue grecque. Et donc, historiquement, donc jusqu'à la réforme du concile d'après Vatican II, il y a eu, on chantait trois fois le Kyrie, puis trois fois Christe, puis trois fois Kyrie. Et depuis le concile Vatican II, on ne chante plus que deux fois Kyrie, deux fois Christe, deux fois Kyrie. Voilà. Donc ce qui est sûr, c'est que le chiffre 3, il revient à la Trinité. Kyrie, c'est Seigneur, donc Seigneur le Père, Christe, le Christ, Kyrie, le Saint-Esprit. Voilà. Et autrefois, on chantait trois fois trois. En fait, sans doute que ceux qui ont réformé la liturgie à la fin des années 60, se sont dit que c'était un reste, mais qui n'avait sans doute plus trop de sens. Et c'est pour ça qu'on est repassé à deux fois, deux fois, deux fois. Voilà.
Merci, Don Raphaël. Nous avions une question, entre autres. C'était plus une réflexion sur ce qu'avait dit saint Thomas d'Aquin. La musique doit chanter la louange du Créateur. Seule la musique vocale permet, car la musique instrumentale ne flatte que les sens. Voilà, on peut conclure, je pense, sur ce qu'a dit saint Thomas.
Très beau.
Merci beaucoup, Don Raphaël. Et puis, espérons, nous entendrons aussi prochainement. Voilà.